Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Christ est ressuscité. Chers amis, une émission aujourd'hui sur la fête de Pâques que l'Église orthodoxe célèbre en ce jour. Nous commençons par la présentation d'un ouvrage paru récemment chez L'Harmattan, « Par la mort, il a vaincu la mort », titre directement inspiré du tropaire de la fête. Son auteur, Michel Simion, professeur en relations internationales et essayiste, est avec nous pour en parler. Cher Michel, le premier chapitre de votre livre s'intitule « En attendant le Christ » et commence ainsi. Toutes les religions regardent la mort en face et la prennent au sérieux.
Le christianisme en cela est finalement, de ce point de vue-là, c'est pas une rupture avec les autres religions, et en même temps c'est une rupture parce que le christianisme n'est pas une religion. Pourquoi il n'est pas une religion ? Mais parce que une religion apparaît et se développe lorsqu'il y a un mur qui sépare Dieu de sa créature. Mais à partir du moment où Dieu même se fait créature, où Dieu même se fait homme, ce mur-là n'existe plus. Donc, de ce point de vue-là, le christianisme n'est pas une religion, c'est la fin de toutes les religions. Donc, quand je dis que ces religions-là sont une préfiguration, c'est que dans toutes les religions, il y a une promesse de félicité, même dans le bouddhisme, dans l'hindouisme auparavant, dans l'hellénisme, si vous voulez, dans la Grèce antique, dans le judaïsme encore plus, il y a une promesse d'une vie après la mort. La mort n'est pas le point final de l'existence. Le christianisme va parachever cela dans une Weltanschauung qui nous met dans un monde complètement différent, celui de la béatitude, de la résurrection, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette entrée en la matière. Alors, vous avez un chapitre, la mort travestie, où vous parlez beaucoup de cette tendance de notre époque actuelle de dissimuler, en fait, la mort.
Hein, effectivement, c'est pour cela aussi que j'ai écrit un peu ce livre. Bon, avec l'âge, je vois de plus en plus de gens et d'amis mourir. Et donc, j'assiste d'une manière de plus en plus étonnée à un spectacle qui me désole. Il faut dire la vérité, l'homme moderne déteste la mort. Et je crois penser qu'il le déteste parce qu'il déteste se souvenir qu'il est lui-même mortel. Alors, la mort, qui est le plus grand ennemi de la vie, est devenue une espèce de pièce de théâtre moderne, bien rodée, avec des personnages affables, rassurants. Quelque part, c'est une farce, c'est pas une mascarade. Tous les rituels chrétiens autour de la mort, qui sont si consolateurs et si prometteurs de résurrection et de vie éternelle, sont expédiés et sont tout simplement maquillés, dissimulés, disparaissent. Or, grâce à la résurrection du Christ, notre résurrection personnelle n'est plus une possibilité, mais c'est une certitude. Donc, quelque part, j'en veux, entre guillemets, au monde moderne, d'avoir complètement effacé tous les rituels qui faisaient partie de mon enfance, par exemple, autour de la mort et autour du passage douloureux de cette vie vers une autre vie. Je dirais que la mort a un caractère ambigu parce que d'un côté elle est effroyable, mais de l'autre côté elle est aussi le passage pour le chrétien, encore plus pour le chrétien orthodoxe, vers un nouveau monde et vers une vie éternelle.
Et ce chapitre commence par la phrase « L'homme moderne déteste la mort parce qu'elle lui rappelle qu'il ne peut pas tout ».
Effectivement, on assiste de plus en plus à des prouesses scientifiques qui sont effectivement époustouflantes et terrifiantes en même temps. La promesse transhumaniste est de transformer déjà l'être humain dans une sorte de santé augmentée de plus en plus, et l'objectif final, c'est de le rendre immortel. En attendant, on continue de mourir. Et donc, ça nous débarrasse pas de l'angoisse de la mort, mais la promesse transhumaniste, qui est à l'opposé du christianisme, c'est faire de cette vie-là, ici et maintenant, une sorte de béatitude permanente, et éventuellement de l'interrompre, même de façon brutale, lorsque la fête est terminée, lorsque cette béatitude-là, ici et maintenant, est finie. Donc, oui, le christianisme est à l'opposé de la tendance moderne de dépasser la condition humaine, de transformer l'être humain dans un être augmenté, de plus en plus sain, de plus en plus jeune, dans une jeunesse perpétuelle et dans un culte hédoniste de la jeunesse éternelle. Or, la promesse chrétienne est exactement à l'opposé de cela. Et si j'étais un peu provocateur ou un peu abrupt, je dirais que le transhumanisme est quelque part une entreprise démoniaque pour le chrétien.
Oui, excusez-moi, je me fais un peu l'avocat du diable là, mais nous chantons bien « Par la mort, il a vaincu la mort ». Bon, on peut dire qu'on change de moyen, si vous voulez, pour vaincre la mort, mais l'objectif de vaincre la mort est toujours là. Alors, si on a obtenu une autre méthode, si je peux me permettre, pourquoi pas ?
Est-ce que toutes ces promesses-là et toutes ces prouesses scientifiques, est-ce que cela a débarrassé l'homme moderne de l'angoisse de la mort? Je vous invite à lire ou à relire Le Roi se meurt de Jean Ionesco et vous verrez qu'il n'en est rien. L'angoisse de la mort et toute la philosophie moderne, l'existentialisme et les sueurs parlent de cette angoisse-là. Donc, on n'a pas pu débarrasser l'homme, malgré les prouesses scientifiques, de la terrible angoisse de la mort. Plus encore que la souffrance, la mort a un caractère ambivalent et paradoxal. Ennemi qu'il faut détruire pour le chrétien, la mort est tout de même redoutable et anormale, elle est effroyable, elle est aussi tragique et unique. Simultanément, elle révèle le sens de cette vie, elle promet pour le chrétien une résurrection en Christ. Je vais vous rappeler quelque chose, le Christ a rassuré Marthe en lui disant que son frère Lazare ressuscitera. Mais quelques instants plus tard, devant son tombeau, il a pleuré. Donc le caractère ambigu et effroyable de la mort, promesse de la résurrection, mais en même temps le Christ, il pleure devant la mort de son ami Lazare, devant la condition humaine déchue et prisonnière de la mort. Et c'est un peu la réponse chrétienne face, si vous voulez, à cet ennemi qui sera le dernier à être détruit, selon les paroles de saint Paul, mais qui demeure toujours, malgré toutes les prouesses scientifiques, comme je disais tout à l'heure, on ne nous débarrasse pas de l'angoisse et du souvenir du fait qu'on est mortel.
Un mot, si vous voulez bien, sur le corps. Parce que, évidemment, avec la mort, on voit la mort du corps. Et on croit que l'âme est la partie immortelle, quand même. Alors, qu'en est-il au fait? Parce que on croit aussi à la résurrection des corps. Hein. C'est le Christ après la résurrection, on l'a bien vu. Là, comme on le connaissait, je dirais, mais avec un corps qui était le corps de gloire, comme on dit, qui était différent. Alors, qu'en est-il au fait du corps?
Alors, les choses se passent en deux temps. Effectivement, l'être humain, la mort que nous connaissons tous, le sépare du corps, mais la personne humaine est corps et âme, et cette union-là est indestructible. D'où, si vous voulez, la réticence chrétienne, orthodoxe comme catholique, face à la crémation, par exemple, qui de toute manière ne détruira pas ce lien, mais est vu comme une profanation, donc comme un mépris du corps. Le corps est sanctifié d'abord parce qu'il fait partie intégrale de la personne humaine, mais aussi parce qu'il a été pneumatisé, sacralisé par l'Eucharistie à laquelle il a participé, par le baptême et par toutes les prières auxquelles il a participé. Le jugement particulier qui est tellement redouté par le chrétien tout de suite après sa mort concerne l'âme, mais pas le corps. Le jugement final, le jugement qui viendra à la parousie, là concernera le corps aussi qui sera ressuscité, quelle qu'il soit sa destinée humaine, s'il a été conservé parce qu'il a été sanctifié ou s'il a été détruit comme toute matière, ce lien est indestructible parce que la personne unique est indestructible, d'où le fait que l'Église chrétienne, orthodoxe ou catholique rend un culte profond au corps et encore plus aux reliques des saints, des martyrs de l'Église, qui sont. Je rappelle qu'une église est construite sur l'autel d'une église est construit sur des reliques des saints. On peut pas célébrer une divine liturgie sans l'antémis qui est dans laquelle sont incrustées des reliques de saints. C'est aussi le culte qui est apporté au corps des martyrs qui ont traversé le temps. Donc le corps est contrairement à je dirais l'attitude moderne très scientifique n'est pas du tout quelque chose méprisable qui doit passer dans une benne à ordures après la mort. J'insiste sur le fait que une crémation est vue par l'Église comme une profanation.
Et on n'oublie pas Saint Paul qui dit vous êtes le temple de l'Esprit. Alors, vous avez parlé un peu des reliques et aussi du culte des reliques qui rappelle justement ce lien avec la matière, en fait. Hein, c'est
exactement.
Qui fait partie de la création de Dieu et c'est en cela qu'elle fait partie également du projet du salut. Bon, deux mots peut-être pour terminer presque cette émission, si vous voulez, sur votre fin, qui est une fin, une coda, vous avez, et c'est un acatiste, donc une hymne, en fait, pour les défunts. Et là, c'est, vous allez nous dire, c'est l'œuvre d'un russe, hein, d'un orthodoxe russe. Et vous dites, cette prière d'intercession pour les défunts en forme d'acatiste a été composée pendant l'époque des persécutions staliniennes par un évêque russe, confesseur de la foi, dans un camp de déportation, où il devait d'ailleurs mourir. Le texte a été recueilli pendant l'entre-deux-guerres et diffusé par le monastère Saint-Job de Potchaïev. Alors, pourquoi finir comme ça?
Je finis comme ça, mais parce que ce que je veux dire, c'est que depuis, même avant la mort, pendant l'agonie sur le lit de mort, la prière des proches est essentielle. Pourquoi je dis cela? Parce que il faut savoir que dans ce qu'on peut appeler la Weltanschauung chrétienne, la prière de l'Église et la prière des proches peut même sauver une âme de l'enfer, peut même améliorer son sort. Donc la prière de l'Église est vraiment essentielle. Il n'y a pas de salut individuel. La prière ecclésiale est importante. Elle a lieu lors de la maladie, sur le lit de mort. Elle se prolonge à l'enterrement. Elle continue avec ce qu'on appelle les panichides ou les parastases. 9e jour, 40e jour, chaque année à la date anniversaire. Elle a lieu lors de la proscomédie qui précède la divine liturgie, mais même dans la divine liturgie, il y a des moments de prière pour les morts. Enfin, le samedi, deux semaines avant le grand carême, puis le deuxième, troisième, quatrième semaine du grand carême sont dédiés à la prière ecclésiale pour les morts. Eh bien, l'acatiste pour les morts, que j'ai mis à la fin de ce livre et qui est d'une beauté saisissante, a été écrit, comme vous l'avez dit, par un évêque moine qui a laissé ses jours, qui est mort, on ne sait pas qui c'est. Dans le goulag russe, et d'une beauté, et qui est une synthèse, en fait, de toutes ces prières. Voilà, je l'ai mis à la fin, parce que c'est la synthèse un peu des panichides, de toutes les prières que l'Église fait dans l'espoir de la résurrection.
Ce sera le mot de la fin. Michel Simion, merci beaucoup. Alors, le titre de votre ouvrage, « Par la mort, il a vaincu la mort », c'est chez l'Harmattan, 2024. Et maintenant, c'est le moment de la pause. Ce sera bien sûr un extrait de la liturgie pascale par l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Nana Peradze.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Amen. Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.
Et après cet extrait de la liturgie pascale par l'ensemble Harmonie Géorgienne sous la direction de Nana Peradze, écoutons le message du métropolite Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Enfants bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tous les chrétiens orthodoxes se réjouissent, fêtent et célèbrent la résurrection de notre Seigneur. Ce que l'Écriture annonce, ce que la liturgie commémore, ce que les hymnes proclament, tout le mystère du salut se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Hier encore avec le Christ auprès de la croix, et maintenant avec les apôtres et les myrophores devant le tombeau vide, nous devenons les témoins de l'amour fou et infini de Dieu pour sa créature. C'est en lui que réside le mystère de la paix pour laquelle nous continuons à prier à l'heure où dans de nombreuses parties du monde, la souffrance et la guerre sont encore des réalités terribles. L'événement historique de la résurrection du Christ ne doit être appréhendé ni comme un fait nostalgique du passé, ni comme une attente eschatologique uniquement future. En revanche, on doit s'engager à la recherche du sens de cet événement historique, rendu possible grâce à sa remise à jour par l'herméneutique chrétienne. Pour les gens d'aujourd'hui, la proposition du sens de la résurrection semble être plus important que l'événement historique en soi. En effet, déjà à l'époque néo-testamentaire, tant l'apôtre Paul que l'évangéliste Jean ont avancé une interprétation symbolique de la résurrection, suivie par les apologètes, surtout Origène et les pères cappadociens. Selon cette interprétation, est ressuscité celui qui a redressé et réformé sa pensée et son action pratique, les inscrivant dans la perspective de l'événement christique. Or, le Christ n'est plus une figure uniquement historique, mais il représente, incarne et s'identifie idéalement aux valeurs universelles, transcendantes et diachroniques, telles l'amour ou la solidarité sociale, la liberté ou la libération des opprimés et des faibles, la justice ou l'égalité pour tous, la paix et la réconciliation pour les victimes de l'histoire, y compris enfin les fameuses vertus cardinales issues de la philosophie grecque. Par conséquent, on n'attend plus la résurrection comme un événement à venir, mais comme un défi à relever dans le temps présent, relatif à la réorientation de la pensée et de l'action humaine, et imprégné du sens d'un monde nouveau déterminé par des idées universelles, critiques de la configuration de l'ordre établi actuel. Les logiques du monde sont renversées. Notre foi se résume en un paradoxe existentiel que l'Église chante en ce jour. Lorsque tu disais dans le tombeau, Seigneur immortel, tu as brisé la puissance de l'enfer et tu es ressuscité victorieusement au Christ notre Dieu. Aujourd'hui, nous l'annonçons avec allégresse, le Christ est ressuscité. Afin d'accorder à l'humanité tout entière une promesse nouvelle, la confiance que le divin a non seulement vaincu la mort et le péché, mais que notre vocation remodelée par son sang versé sur la croix est désormais liée à la promesse incroyable du don de sa divinité. Désormais, nous nous adressons à Dieu en lui disant « Père », non seulement en tant que notre Créateur, mais aussi parce que de la solitude du tombeau jaillit l'acclamation qui se répandra dans le monde entier. Le Christ est ressuscité. Enfin, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux à l'occasion de la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.
Oh, qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous, qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ.
Et c'est avec le message de Métropolite Dimitrios que prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Guillaume Ficheux. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.
Qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous, qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le Christ. Baptisé en Christ.